et si l'entrepreneuriat rendait fou. Nouveau livre qui sera lancé prochainement au Québec. Et pour en parler, l'auteur-entrepreneur Dominique Gagnon est avec nous. Comment ça va, Dominique?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Quand même, un sujet santé mentale et entrepreneuriat, c'est pas évident. Mais comment est venue l'idée de lancer, ben, en fait, de faire ce livre-là? Et de toute évidence, pour l'avoir feuilleté, là, il y a du stock en masse et il y a beaucoup. Ça, je pense que ça va parler à de nombreux entrepreneurs et personnes. Hein?
Oui, je pense effectivement. Puis c'est un peu ça la raison, comme tu dis, c'est que ça va parler à énormément d'entrepreneurs. Tu sais, j'ai écrit 3 livres avant celui-là. Donc, j'ai écrit 2 livres sur le trouble d'attention et d'hyperactivité. Fait que, tu sais, ouais. Souvent, comme entrepreneur, on aime beaucoup régler nos propres problèmes. Fait que souvent, c'est les meilleures idées. C'est quand même, je suis frustré, j'ai envie de le régler. Ben moi, quand j'ai découvert que j'étais TDAH, j'étais un petit peu frustré parce que je me disais, OK, il y a 10 ans, là, quand tu avais un TDAH, généralement, tu étais voué à l'échec. T'sais, c'était un peu, je me rappelle, mes parents s'étaient fait dire, si votre fils fait un DEP, vous êtes chanceux parce qu'évidemment, j'étais un peu turbulent. Donc, j'ai écrit des livres pour essayer de mieux comprendre ce trouble-là. Suite à ça, j'en ai écrit un troisième qui s'appelle « J'aime les zèbres sur la douance ». Et évidemment, il est arrivé des moments dans ma carrière d'entrepreneur, hein, souvent malheureusement, on donne l'impression qu'on est des super-héros infaillibles, que tout va bien. Tu sais, moi, j'ai vécu les hauts, mais j'ai vécu les bas de l'entrepreneuriat. J'ai vécu, on est sur un podcast qui parle de finances. Moi, j'ai vécu la proposition consommateur. Tu sais, de dire ça, là, c'est tellement tabou au Québec parce que dès le moment que tu as échoué financièrement, ben, tu te fais mettre de côté. Donc, j'ai eu des défis de santé mentale à ce moment-là. Et c'est revenu durant la pandémie parce que durant la pandémie, moi, mon entreprise faisait 2 choses, de l'événementiel à l'international. Tu sais, c'est pas mal les 2 choses qui ont disparu en premier,
ouais,
qui sont venues en dernier.
Puis, ouais, des coups de 2x4 assez solides, là.
C'était horrible. Tu sais, on a perdu 98 % de nos revenus. Le 2 % restant, c'est des dépôts que j'ai jamais remboursés. Fait que la réalité, on a perdu à peu près 100 % de nos revenus. Et j'ai fait une sortie à ce moment-là dans la presse parce que j'allais pas bien, tu sais, en toute transparence. Puis j'ai avoué publiquement dans la presse que je pleurais dans mon auto avant de rentrer au bureau puis que je trouvais ça horrible, cette période-là, la pandémie, le stress. Puis suite à cette sortie-là, j'ai reçu des centaines de messages d'entrepreneurs qui avaient peur d'en parler. D'entrepreneurs qui disaient « Hey, ça fait du bien de voir un entrepreneur qui n'est pas, tu sais, je ne suis pas considéré tout le temps comme un doux en affaires, tu sais, j'ai eu des succès, qui est prêt à accepter qu'il est vulnérable, qui est prêt à accepter que ça ne va pas bien puis qui en parle. » Et là, je me suis mis à dire « Il doit exister des ouvrages pour mieux comprendre. » Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui là, qui parle de santé mentale et d'entrepreneuriat. Et quand on regarde des statistiques, ben, c'est vraiment effarant à quel point l'entrepreneuriat cause des défis de santé mentale, mais aussi à quel point être différent nous pousse à devenir entrepreneur. Fait qu'il y a vraiment les deux dans le livre. Moi, je me suis questionné de dire, suis-tu devenu entrepreneur parce que j'étais déjà fou, ce qui est un peu le cas, ou est-ce que je suis devenu encore plus fou parce que j'étais entrepreneur? Puis c'est un petit peu ma quête personnelle que j'ai décidé de faire dans ce livre-là.
Ouais, c'est tabou, je pense, même de parler de santé mentale. De plus en plus, on le fait au Québec, mais ça reste qu'on peut être étiqueté, catalogué. On se fait pointer du doigt assez rapidement, même si les gens vont dire « Ouais, ouais, je comprends ce que tu vis, mais dans le fond, je ne suis jamais passé par là, puis tu as l'air un peu bizarre. » Donc là, le fait d'en parler, le fait de sortir de ta coquille puis de te rendre compte que finalement, tu n'es pas le seul à vivre ça, ça aussi, j'imagine que ça amène un boost d'énergie.
Oui, puis je sais pas, tu sais, Pierre t'a dit que tu l'as feuilleté, mais tu sais aussi, il faut, quand tu dis que t'es pas seul, c'est vraiment ça. Quand on regarde les statistiques, là, c'est quand même assez fou de dire que c'est 4 fois plus de toxicomanie et d'alcoolisme si t'es entrepreneur, c'est 10 fois plus de troubles bipolaires, c'est 6 fois plus de TDAH, si je me rappelle bien, entre 5 et 6 fois plus d'anxiété et de dépression.
Oui.
Et la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs en Amérique du Nord, c'est le suicide avant le cancer. Et la première, c'est les maladies cardiovasculaires, ce qui veut dire la crise cardiaque. Et on peut dire que le stress d'une carrière entrepreneuriale va certainement avoir un impact sur votre cœur. Et je pense que, en fait, la réalité, c'est que oui, l'entrepreneuriat rend un peu fou, mais le problème, c'est que du fait que personne n'en parlait, ben, tout le monde le cachait. Personne n'osait consulter. On était aussi dans la culture de l'hyper-performance. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, travailler en bas de 70 heures, c'était mal vu. C'était comme, voyons, t'es pas un travaillant, tu travailles pas fort. Puis l'ancienne génération, c'était beaucoup basé sur le nombre d'heures travaillées. C'était des guerriers, ça travaillait comme des fous. Ben aujourd'hui, je pense, moi, tu vois, je fais partie des gens qui pensent que oui, je travaille fort, mais je pense qu'on devrait travailler plus intelligemment et peut-être réussir à avoir une meilleure équilibre.
Oui, puis à l'époque aussi, peut-être les références qu'on avait, les entrepreneurs travaillaient beaucoup manuellement ou à tout le moins avaient changé beaucoup les idées. Là, nous, aujourd'hui, c'est une économie numérique. Tout se passe au... dans la tête et tu absorbes tout ça à un moment donné, 10, 12 heures devant un écran, à un moment donné, tu viens que tu peux perdre rapidement tes repères. Donc, peut-être que ça aussi, la nature de la business a changé. Et là, il faut penser à soi. Tu dis, il faut vraiment distinguer l'entreprise, la vie privée, mettre vraiment un pare-feu, puis vraiment scinder les deux côtés, parce que sinon, si on travaille tous à 80 heures semaine pour la même cause, ben on peut y laisser sa peau, clairement, là.
Ouais, un des gros problèmes que tu as bien identifié, c'est qu'énormément d'entrepreneurs s'identifient à leur entreprise. Moi, j'en faisais partie. Ma première business était à Québec. Elle s'appelait Piranha. C'était une agence de marketing puis une agence de développement mobile. Puis sur Facebook, j'étais devenu Dominique Piranha. Tu sais, j'étais fusionnel. Moi, je faisais partie des gens qui appelaient ça mon bébé, qui disaient que c'était ma famille. Le problème, c'est que c'est devenu mon identité. Mais du moment où tu échoues, du moment où tu as des difficultés économiques, du moment où tout va mal, si à ce moment-là, tu considères que ton entreprise, c'est toi et que toi, tu es ton entreprise, c'est doublement difficile de réussir à s'en tirer.
Ouais.
Et ça, on doit commencer à apprendre à séparer hein, l'entreprise de l'individu, essayer de se dire, OK, j'ai le droit d'avoir ma vie personnelle, j'ai le droit d'avoir mon entreprise, mais je ne suis plus une fusion des deux. Et ça aussi, c'est quand même un concept qui est assez nouveau.
Le fait que tu aies des témoignages dans ton livre aussi, ça aide à peut-être... À faire comprendre le phénomène et peut-être la détresse qu'on peut voir de plus en plus chez des entrepreneurs seuls dans leur bureau qui doivent prendre des décisions. Souvent, tu dois mettre à pied des employés. Il y a des décisions que dans l'entreprise, personne ne va voir venir ou va être capable de comprendre parce qu'ils ne prendront pas cette décision-là. Le fait d'avoir des témoignages comme ça aussi, ça apporte et des témoignages féminins, hein, faut le dire.
Oui, on a des témoignages féminins, on a des témoignages masculins, mais aussi beaucoup de gens. C'est la première fois qu'il en parle. Je voyais Caroline hier, qui est justement une entrepreneure de Québec, qui est devenue artiste, qui était dans le monde de la restauration, qui parle du suicide dans le livre, hein, qui est sûrement le sujet le plus extrême. Deux tentatives de suicide durant sa carrière entrepreneuriale, qui envoyait une infolettre, puis qu'elle disait « c'est la première fois que j'en parle publiquement ». Personne ne savait cette histoire-là,
ouais.
À part mes proches. Et je suis certain qu'elle ressent ce que moi j'ai ressenti quand j'ai fait la presse durant la pandémie. Du stress. Parce qu'il y a une image définitivement d'accepter ça. Je pense à Jean-Philippe qui est dans le livre qui disait un moment donné, je suis en train de conduire, puis je regardais le poteau. Puis je me disais que ça serait peut-être le bon moment d'y rentrer dedans.
Hey.
Il y a des gens qui en parlent. Christian, qui est très connu à Québec, Christian Genet, qui a été propriétaire des Sushi Taxi pendant des années, qui parle de son TDAH avec l'extrémisme parfois qui vient avec ça, la consommation. Marie-Christine au Thai Zone qui est devenue alcoolique. Parce qu'évidemment, hein, comme entrepreneur, on est dans les 5 à 7 sans arrêt, puis on s'auto-médicamente assez souvent. Ça veut dire qu'on a une mauvaise journée, un petit scotch, deux petits scotch, ouais. 5 petits scotch. Il y en a beaucoup. Et c'est tous des sujets qu'on entend malheureusement peu parler, parce que ce qu'on aime au Québec, là, c'est les belles histoires. C'est les dragons. C'est l'aspect de dire « Ah, on donne des 40 000, des 50 000 partout, ça va bien. » Mais il faut aussi être capable de voir l'envers de la médaille.
Oui, justement. Cet étourdissement-là, tu dis, l'entrepreneuriat peut amener le type de personnes, tu dis, TDAH et autres. Donc, à la base, c'est grisant d'avoir son entreprise, de dire, moi, je mets 100 heures là-dedans, puis je fonce tête première, puis pas grave, il arrivera ce qui arrivera. Mais si tu vis un échec, là, ça peut te décoller complètement, là.
Effectivement, si on regarde dans le livre, ce que le livre réussit à un peu donner comme tendance, c'est que si vous êtes neuroatypique, donc neuroatypique, là, pour définir un petit peu c'est quoi, vous avez un trouble d'attention et d'hyperactivité, vous êtes bipolaire, vous êtes maniaco-dépressif, vous êtes peut-être autiste, qui sont tous des troubles neuroatypiques, vous avez plus de chances d'entreprendre. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs aussi ne se sentaient pas à sa place ailleurs. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de drop-out. C'est des gens qui ont lâché l'école, oui. Qui sont devenus des grands entrepreneurs à succès. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas choisi de devenir entrepreneur. T'sais, j'enseigne l'entrepreneuriat à l'ETS. Souvent, je dis, moi, je ne pense pas que c'est un choix. Je dis, moi, la réalité, je ne savais rien faire d'autre. J'ai un trouble avec l'autorité. J'ai de la misère à fonctionner dans des rythmes un peu trop carrés. Donc, évidemment, ça pousse ces gens-là à entreprendre. Mais par la suite, la vie d'un entrepreneur, surtout les problèmes financiers, parce que tu vois, j'écoutais un épisode justement tout à l'heure dans l'auto où tu parlais avec Mallette, du redressement de la loi sur la protection avec les créanciers.
Oui,
les problèmes financiers sont le plus gros stress d'un entrepreneur parce que c'est plus gros que nous. Si tu n'as plus d'argent, généralement, il y a ta maison en jeu. Souvent, il y a ton auto en jeu. Il y a ta famille en jeu. Il y a tes employés en jeu. Et le trois quarts du temps, on a l'impression qu'on peut en parler à tout le monde, à personne, qu'on est seul au sommet, qui est souvent l'image qu'on donne.
Mais tu ne veux pas en parler parce que l'entrepreneuriat est associé à la réussite. Là, si tu parles de tes échecs, tu viens de briser ton image est à peu près 100% quand on fait des affaires souvent, hein, c'est fort l'image là, d'un guerrier, d'un top là, niveau et d'un fonceur. Donc là, tu t'exposes tranquillement à être vulnérable. Et être vulnérable, entrepreneur, ça rime pas, là.
Et pourtant, moi, les plus beaux moments de leadership que j'ai vécu dans ma carrière, c'est des moments de vulnérabilité. Parce que durant la pandémie, si j'avais caché à mon équipe de direction que j'allais pas bien, puis qu'à ce moment-là, je pensais que j'avais un petit peu de la difficulté à être motivé, comment eux auraient pu savoir qu'ils avaient besoin de m'aider à me relever? Ben, la réalité, c'est mon équipe de direction, on dit « no way, on va continuer ». On va supporter l'entreprise. Moi, j'avais une période un petit peu plus sombre à ce moment-là. Puis ça fait qu'aujourd'hui, Connect & Go est 3 fois plus gros qu'avant la pandémie. On a fait un total pivot. On va réaliser 500 millions de dollars en transactions aujourd'hui sur notre plateforme. Mais ça vient aussi avec la vulnérabilité. L'aspect d'être ouvert à en parler. Et le problème, c'est quand on le cache, bien, ce qui arrive, c'est malheureusement des gens qui ont tellement de pression, qui voient noir et qui vont prendre la décision fatidique de s'enlever la vie. Ouais. Moi, je connais un entrepreneur, il y a 3 mois à succès dans le monde de la construction. Il s'est enlevé la vie. Pourquoi? Parce qu'il faisait faillite. Il s'est rendu au bout, hein, je dis souvent comme un entrepreneur, il s'est rendu au bout de son projet parce qu'il a fait la liquidation. Il a réussi à tout cleaner ses trucs et il s'est enlevé la vie le 24 décembre. Ben, la pire journée, probablement de Noël, mais ça faisait 3 mois qu'il faisait son plan. Pourquoi? Parce qu'il se sentait seul, il n'en avait parlé à personne. Puis il est arrivé trop tard et ça, des histoires comme ça, il y en a plus qu'on pense.
Il y en a beaucoup au Québec, des histoires comme ça. Le lâcher prise, l'ego, ça aussi, hein, l'ego, là, tu sais, le super ego, lâcher prise, de dire, regarde, je fous tout ça là, je m'en vais courir, je m'en vais me changer les idées, je vais faire du sport, une passion, un hobby, les enfants, carrément, là, tu sais, ouais. Puis de revenir le lendemain, de dire, écoutez, mauvaise journée au bureau, ça arrive. On repart, on met le reset, puis on repart à zéro. Là. Ça aussi, c'est important. C'est quoi le legs de ton livre? Qu'est-ce que tu veux laisser avec ces témoignages-là puis ce que tu amènes dans ton livre?
La première chose, c'est d'en parler. Fait que, tu sais, je pense que tout ça amène. Là. Si on est en train de se parler, c'est à cause de ce livre-là. Tu sais, je vais faire évidemment un tour des médias pour en parler. Je pense que d'en parler, c'est la première étape. La deuxième, c'est de faire sentir aux entrepreneurs que d'en parler, c'est pas mal. Un peu de défaire l'image que tu disais tantôt, de dire entrepreneur et vulnérabilité ne vont pas ensemble. Moi, je pense que oui, on doit être capable d'en parler. Puis un peu comme avec la faillite, le gros problème, c'est que les gens attendent trop tard. Les gens attendent quand ils sont rendus en dessous. Un psychologue aujourd'hui au Québec, 1 an à peu près, si t'en veux un. Fait que la réalité, si tu ne consultes pas déjà, puis tu commences à aller mal parce que ta business va mal, parce que tu as le prêt de la PCU à rembourser ou tu as l'inflation qui vient de te taper, la réalité, tu n'as pas accès malheureusement aux services aujourd'hui. Donc, il y a aussi une pression politique que je souhaite faire parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour nos entrepreneurs. Oui, j'en suis un, mais j'en vois d'autres que je me dis, hey, ces gens-là, là, ils créent de l'emploi, ils travaillent comme des forcenés, ils mettent leurs couilles sur la table et on n'en prend pas soin. Parce que quand il échoue là au Québec, on est bien content. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai énormément de difficultés. Je pense à une business que j'avais bien aimée, Elisabeth Coulombe, qui était chez Terreau à Québec. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire-là.
Oui, tu es venu au podcast. Il était venu les deux filles au podcast. Ouais.
Histoire de Kickstarter, puis les médias, là, quand ça a échoué, ils les ont presque fait passer comme des voleuses. T'sais, les filles ont perdu là-dedans, ont perdu énormément de santé mentale.
Ben, la crédibilité,
etc.,
pis... ils ont perdu beaucoup. Là. Ben, oui, c'est ça. Là.
C'est. Puis, tu sais, moi, ce que je dis, c'est que la différence entre eux et les journalistes qui ont écrit sur eux, puis ça, je sais qu'il y a quelques journalistes qui n'ont pas aimé mon opinion, mais j'ai dit la différence entre eux et les autres, c'est qu'eux, ils ont essayé. Eux, ils se sont lancés dans un projet ambitieux. Ouais. Ça n'a pas marché, mais ils ont essayé quelque chose. Puis, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, le livre souhaite ça, mais aussi passer un message en disant prenez soin un peu plus de vous, puis soyez au courant. Parce que si vous êtes au courant que vous avez plus de chances d'être alcoolique, peut-être qu'un moment donné, vous devriez vous poser la question sur votre consommation d'alcool. Je ne pense pas que beaucoup d'entrepreneurs font ça, mais quand tu dis que c'est 4 fois plus de gens qui deviennent alcooliques, okay, il y a peut-être un warning à avoir là.
Ouais.
On parle de gens dans le livre qui ont fait travailler 80 heures semaine, ils ont presque tous fini anxieux, en dépression, en épuisement professionnel.
Ben c'est pas payant pour la business. Les statistiques jouent contre l'entrepreneur en partant. L'échec là-dedans, il faut l'accepter, je pense, puis il faut vivre avec.
Il faut l'accepter, personne n'aime échouer, c'est dur d'échouer. Après, la réalité, l'innovation vient avec l'échec. Hein. Si on innove, c'est qu'on essaie quelque chose que personne n'a fait avant. L'entrepreneuriat vient avec une prise de risque. Ça, c'est la réalité. C'est aussi ce qui fait que des entrepreneurs se mettent très, très riches parce qu'ils ont pris un risque que les autres n'ont pas pris à ce moment-là. Mais on doit accepter l'échec. On doit accepter comment le vivre aussi et on doit se pardonner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui échouent et qui ne se relancent pas parce que ça leur fait trop mal. Moi, je pense qu'on ne devrait pas perdre ces gens-là. Puis il y a un programme qui s'est lancé qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale par Nathalie Rivrain, qui est la fondatrice de l'école d'entrepreneurship de Beauce, où j'ai eu la chance d'étudier, qui a lancé ce programme-là parce qu'encore une fois, quand les gens vont mal, il n'y a plus personne. Tu es au compte spéciaux, puis arrêtons de penser qu'être au compte spéciaux, c'est être spécial. Ouais. C'est clairement pas être spécial quand tu es rendu là. Ben, dès le moment que tu vas mal, tu n'as rien. Moi, je l'ai vu, quand tu as du succès, tout le monde est là. Tu as du financement, tu as des gens.
Oui, tout le monde t'aime. Hein? Oui, oui.
mais il oublie très, très vite quand ça va mal. Donc, évidemment, moi, c'est de passer le message. Puis c'est pas de dire aux gens de ne pas se lancer en affaires. C'est pas de leur dire « faites pas ça ». Je pense que c'est la plus belle chose au monde. Tous les entrepreneurs dans le livre ont souffert, mais sont toujours entrepreneurs.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on aime ça aussi, cette petite folie-là, etc. Mais ouais. Je pense qu'il faut mieux voir venir les coups.
Puis peut-être l'enseigner aussi aux gens, peut-être des écoles d'entrepreneurs, mais ailleurs peut-être aussi, l'échec en entrepreneuriat va arriver à un moment donné et vous allez être confronté devant des kyrielles d'émotions qui vont vous faire passer de héros à zéro là, rapidement. Des fois, on va sous-estimer, on va se rabaisser comme entrepreneur. Mais ça aussi, il faut le dire, c'est un passage obligé. Ça fait partie de la game, ça fait partie de la business, là, comme on dit.
Exactement. T'sais, j'ai jamais connu un vrai entrepreneur là, qui dit « Oh oui, moi, c'est linéaire. Ça a commencé, ça a bien été, il n'y a jamais eu de bas. Le marché change. » Des fois, c'est même pas de notre faute. Hein, l'inflation, là, c'est pas de la faute de l'entrepreneur aujourd'hui.
Pandémie, c'est pas de la pandémie. Faute, ouais, c'est ça.
Moi, le gouvernement me dit « t'as plus le droit d'ouvrir, t'as plus le droit d'ouvrir, t'as plus le droit d'opérer, t'as plus le droit de voyager ». C'est ce que je faisais dans la vie. Moi, j'étais payé quand on rassemblait des foules. Tu sais, le Festival d'été de Québec était notre client. Moi, je faisais un dollar, par exemple, sur chaque personne qui portait mon bracelet. Ben, il n'y a plus de festival. Donc, évidemment, ces moments-là sont très, très difficiles. Il faut accepter. Et je pense qu'il faut aussi commencer à bien se positionner. Ce qui veut dire que moi, je considère comme entrepreneur, consulter un psychologue, c'est pas quand ça va mal. Moi, j'ai toujours dit, les gens sains d'esprit voient des psys, les autres n'en voient pas. Mais la réalité, si déjà tu es capable d'évacuer ton stress, tu es capable de partager, de réfléchir un peu mieux, c'est là que ton entreprise va être bon. Puis quand tu es en burn-out, tu es épuisé, tu ne prends plus des bonnes décisions. Fait que c'est encore pire. Si ta business va mal, tu es épuisé. Définitivement, là, essayer de faire de l'insomnie pendant 10 nuits puis prendre une bonne décision. Moi, je l'ai vu que ça m'a apporté à prendre des mauvaises décisions. Donc, je pense que c'est d'un peu de revoir notre façon d'entreprendre, de supporter nos entrepreneurs définitivement beaucoup plus, puis de leur permettre d'en parler ouvertement.
Ouais, le mentorat aussi peut aider. Si tu as un mentor qui est passé au travers, qui dit « Écoute, Dominique, là, je te regarde aller, là, regarde, on va prendre une bière, on va jaser, puis on va faire… »
Ou les groupes d'affaires.
Oui, exactement.
T'sais, on pense à IO, YPO, il y en a plusieurs.
Réseautage.
Ça fait partie des trucs et astuces qu'on a mis dans le livre, mais encore une fois, pour ça, il faut une sécurité psychologique. Donc, ce qui est bien de ces groupes-là aussi, souvent, ou d'un mentor, c'est que tu as une relation où tu vas être plus à l'aise d'en parler. Je parlais avec Isabelle Hudon de la BDC, avec qui je vais avoir la chance de faire le lancement du livre. Ils ont lancé un programme pour financer les entrepreneurs. Puis elle me disait que même à l'intérieur de la BDC, ça a été un peu mal reçu parce que les directeurs de compte ont dit « Tu veux que je demande à mon client s'il va bien, si sa santé mentale va bien? » Penses-tu vraiment que je vais confier à ma banque que je ne vais pas? Mais tu vois, j'ai dit, tu sais-tu quoi, je ne confierai pas à ma banque que je ne vais pas parce que je n'ai pas confiance dans ma banque aujourd'hui. Parce que je sais que la banque, ben, quand ça ne va pas, là, ils se mettent à paniquer et ils veulent tirer à la plug. Fait que tu vois, ils essayent de démocratiser, de changer cette image-là. Puis je trouve que c'est un bon premier pas de voir une banque qui supporte financièrement les gens. Parce que l'autre chose, c'est quand ta business va mal, tu n'as peut-être plus d'argent pour te payer un psy. Mais c'est peut-être ça que tu as besoin pour redresser ta compagnie.
Ouais, donc avis aux banquiers. Mettez des services de psychologie pour vos entrepreneurs, puis ça pourrait sauver des entreprises.
Ou faites preuve d'un peu plus d'empathie. T'sais, puis moi, je comprends, la banque prête de l'argent, prend des risques. Je dis pas qu'il faut pardonner à tout le monde. Il y a des gens aussi qui se plantent par leur propre faute. On ne va pas essayer de dire que tous les entrepreneurs devraient être pardonnés. Après, c'est oui, effectivement, d'avoir un peu plus d'empathie. S'il y a une personne qui devrait développer son empathie, c'est la grande machine Revenu Québec, Revenu Canada, qui sont probablement les pires, moi, pour avoir eu affaire à cette machine-là complètement inhumaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Et souvent, les entrepreneurs les ont pourtant versé bien de l'argent par la fin des années.
Oui, non, des machines impitoyables, effectivement. Dominique Gagnon, merci beaucoup. Longue vie à ton livre « Et si l'entrepreneur rendait fou ». Et on va suivre les activités de tout ce qui s'en vient pour Connect & Go au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre.